Aux États-Unis, le verdict est tombé un peu avant midi et ça clôt un peu tout le chapitre de dénonciation Me Too aux États-Unis parce que Harvey Weinstein, l'ex-producteur hollywoodien, a été déclaré coupable d'agression sexuelle et de viol. On en parle avec l'avocat criminaliste Jean-Pierre Rancourt. Vous le savez probablement, mais Maître Rancourt, avocat québécois, est aussi habilité à pratiquer le droit aux États-Unis. Bonsoir, Maître Rancourt.
Bonsoir, Lebeau.
Donc, écoutez, d'abord, c'est quoi la distinction entre agression sexuelle et viol dans l'État de New York?
Ben, écoutez, le viol, là, ça existait ici au Canada déjà. Ça a été changé pour agression sexuelle. On a différents types d'agression sexuelle, différents niveaux. Là-bas, ils ont gardé cette nomenclature de viol, mais c'est agression sexuelle, dans le fond. C'est juste un peu plus grave.
OK. Maître Rancourt, d'abord, vous avez suivi le procès comme ouais. Tout le monde. Est-ce que vous êtes surpris de ce verdict-là?
Un peu parce que la défense, l'avocate qui est bien connue, là, à la fin a dit, ben écoute, on a assez malmené les victimes, qu'on n'a pas besoin de faire entendre l'accusé, pas de défense. À ce moment-là, moi, je pensais qu'il y avait suffisamment d'interrogations pour les jurés. Et d'ailleurs, n'oublions pas que vendredi dernier, le matin, les jurés ont dit, on pense qu'on est dans un impasse. Et le juge a dit, ben non, vous continuez parce qu'on ne peut pas arrêter le procès à ce stade. Ici. Et le juge a retourné les jurés chez eux vendredi jusqu'à lundi matin et le verdict est arrivé ce matin.
OK. Il a été disculpé des accusations de comportement sexuel, de prédation, de prédateur. Ouais. Ça le rendait passible d'une peine à perpétuité. C'est quoi cette accusation-là de prédation?
Ouais, ça n'existe pas ici au Canada. Mais ça existe là-bas. Écoutez, j'ai pas le code avec moi pour pas vous dire, mais c'est une accusation beaucoup plus grave qui fait en sorte que c'est un individu qui a un pattern. D'ailleurs, c'est ce qu'on a voulu essayer de démontrer avec les autres présumées victimes qui ne pouvaient pas porter la plainte parce que c'était prescrit, sont venus témoigner pour démontrer un pattern de prédateur. Alors ça a été rejeté. Chanceux pour lui parce que les autres accusations, on parle de 5 ans à 20 quelques années de prison. On verra qu'est-ce que le juge va donner comme sentence, mais il peut s'en aller pour entre 10 et 20 ans, c'est sûr.
C'est le 11 mars que le juge, dans ce dossier-là, va donner la sentence. D'après vous, là, ça va être quoi, 10, 15?
Entre-temps, la défense va aller en appel, va essayer de le remettre en liberté parce qu'il est détenu. Alors, est-ce que la Cour d'appel, on a assez de motifs en appel pour avoir sa remise en liberté? Si c'est le cas, ça va prendre des années avant que ça se règle. Mais c'est sûr que les accusations pour lesquelles il est déclaré coupable, le juge n'a pas hésité, il l'a envoyé en prison immédiatement, même si la défense a demandé d'attendre au moment de la sentence, des représentations qui est le 11 mars, on l'a incarcéré. C'est sûr qu'il s'en va pour 10, 15, 20 ans, ça c'est sûr.
Donc, ce gars-là qui n'avait jamais fait de prison, ce soir dort en prison. Ça ressemble à quoi les conditions de vie d'un prison de l'État de New York?
Ben, on l'a envoyé dans un endroit où, parce qu'il y a des problèmes mécaniques de démarche et tout ça, puis il a besoin de soins médicaux. Donc, il est dans un genre de prison, mais dans l'aile où on peut s'occuper de l'individu. Chanceux, parce que à New York, là, les prisons sont tellement difficile. Moi, j'en ai visité plusieurs pour vous dire qu'il n'y a rien de drôle là. Alors, lui, là, peut-être qu'il est dans un endroit où on s'occupe de son problème physique, là. Mais il ne voudra pas rester là, je vous le dis tout de suite. La défense, puis il y a de l'argent pour se défendre. On va aller à la cour d'appel, puis on va demander ce qu'il soit libéré.
Maître Rancourt, qu'est-ce que vous voulez dire par là que ce sont des prisons difficiles? Qu'est-ce qui est difficile dans ces prisons-là si on les compare à, je sais pas, à nos prisons, disons?
Ben écoutez, moi j'en ai visité plusieurs et c'est vraiment pas facile dans ces prisons-là. C'est difficile de vous les décrire. J'en ai fait plusieurs dans l'État de New York puis aux États-Unis. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si on prend une prison comme Bordeaux ici à Montréal, où on dit que c'est difficile, ben mettez ça 10 fois pire là-bas. Là.
OK, parfait. Il y a aussi Weinstein a été trouvé coupable de 2 des 5 chefs d'accusation, fait face à une peine de prison. Comme vous l'avez dit, Maître Rancourt, ça se peut qu'il soit libéré en attendant un appel. Parfait. Mais il y a aussi des accusations d'agression sexuelle qui pèsent contre Weinstein à Los Angeles. Là, la mécanique de la justice, comment ça va se passer dans les prochaines semaines pour ces accusations-là?
Ben, c'est ça. Là, il fait face à Los Angeles. La seule différence, est-ce qu'il va être en liberté lorsqu'il va subir son procès là-bas ou il va être détenu? C'est ça qu'on verra. Mais moi, je pense que la défense a un bon point d'appel parce que on sait que le juge a libéré les jurés pour la fin de semaine. Okay. Alors qu'ils ont déjà 3 jours de fait. Ils s'en vont chez eux. On n'a pas ça aussi au Canada. Mais là-bas, dans l'État de New York, à tout le moins, les juges ont cette discrétion-là. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de procès devant jurés. Parfois, c'est juste 2-3 jours. C'est pas des infractions aussi graves. Et aussi, il y a des procès civils devant jurés. On avait ça il y a 40 ans ici au Canada. On ne l'a plus. Alors là-bas, c'est des procès civils. On gardera pas les jurés la fin de semaine. Il n'y a pas de médiatisation. On les envoie chez eux. Alors, le juge a décidé dans ce dossier-là de les renvoyer chez eux. Est-ce que ça, c'est un point d'appel, à mon avis? Oui, parce que les jurés avaient déjà commencé, avaient dit vendredi, « Oh, on n'est pas sûr d'être capable de trouver un verdict, peut-être qu'on va avoir, on va être en désaccord. » Et ils envoient chez eux. C'est sûr qu'il a dit aux jurés, « Vous ne parlez pas de vos délibérations, mais après 3 jours, c'est tellement émotif qu'il est probable, il est fort probable qu'ils en discutent avec leur famille ou leurs amis. Alors ça, c'est un point d'appel important, à mon avis.
Puis, en fait, expliquez-moi comment ça peut être un point d'appel. C'est quoi le problème avec le fait que, pour une fin de semaine, les jurés sont libérés?
Ben c'est parce que si des jurés, par exemple, après 3 jours, disent on a la misère à s'entendre, oui. Et puis on pense pas être capable de s'entendre, ils s'en vont chez eux, discutent, ils sont contaminés par la famille, des amis, etc., reviennent le lundi matin, et au bout de 2 heures, on a un verdict, il y a de quoi qui marche pas, là. Et si on s'entendait pas après 3 jours, comment, après une fin de semaine chez eux, on revient le matin, puis après 2 heures, on s'entend? Moi, si j'étais en défense là-bas, je dirais, il y a de quoi qui marche pas, là. Il y a des jurés qui ont été influencés, qui sont ralliés à la majorité, alors que les verdicts, on sait, un verdict, c'est unanime, mais c'est individuel. Il faut que chacun des 12 jurés ait son verdict et qu'on arrive avec un verdict unanime. Mais si quelqu'un a une idée dans la tête et ne veut pas se rallier à la majorité après 3 jours, ben le juge doit lui dire, vous pouvez garder votre verdict, ça va être un désaccord. Alors ça, c'est un problème, à mon avis.
Aux États-Unis, c'est quoi? Ça prend un verdict unanime ou majoritaire? Ouais.
Unanime. C'est 12, les 12 jurés doivent être unanimes, mais c'est individuel en même temps, parce que chacun se fait une idée, et là, il faut qu'on soit tous unanimes. Mais souvent, vous savez, c'est 10 contre 2, ou 8 contre 4, puis là, à un moment donné, à force de... Et moi, ce que je suspecte, c'est que ce matin, on était 10 contre 2, après une fin de semaine, les deux sont revenus, ils ont dit, on a dit qu'on va se rallier aux autres. On n'est pas supposé de faire ça, mais on n'est pas dans la salle de délibération, on ne le sait pas.
Mais les avocats de Weinstein pourraient plaider ça en appel, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher. C'est dur à prouver là, ce qui a poussé des jurés à changer d'idée après avoir été libérés une fin de semaine.
Oui, c'est ça, mais moi je pense que l'erreur du juge, c'est de les envoyer chez eux le vendredi jusqu'au lundi, alors qu'il y a déjà 3 jours de délibération de fait. Je dis pas après quelques heures, là, mais après 3 jours de délibération, et surtout que ces jurés-là viennent, on ne s'entendra pas. Le juge dit, ben, allez-vous-en en fin de semaine, puis vous reviendrez lundi. Ça, en tout cas, on verra pas ça au Canada, parce que si du moment que les jurés sont séquestrés, c'est jusqu'à la fin. Jamais ils vont retourner chez eux.
Maître Anco, vous connaissez ça mieux que moi, là. D'après vous, là, vous avez vu toute l'équipe d'avocats dont disposait Weinstein. On peut juste soupçonner ce qu'il y avait comme recherche en tout ça, d'équipe de recherche, d'enquêteurs, etc. Combien ça y a coûté, sa défense?
Oh, c'est difficile à dire, parce que nous, au Québec, on charge pas gros, là. Mais là-bas, aux États-Unis, c'est sûr que ça a coûté une fortune. Et c'est pas fini, parce qu'on va aller en appel, puis peut-être qu'il y aura un nouveau procès. Alors, il y a les moyens de se défendre. C'est sûr que les avocats, il y avait quelques avocats, dont l'avocate bien reconnue, là. Mais ils ont engagé des enquêteurs, tout ça. Il y avait une équipe épouvantable autour de ça. Alors, ça a coûté quoi? 500 000? Plus que ça, peut-être, à date? Je fais simplement donner un chiffre comme ça, mais c'est sûr que ça a coûté une fortune.
OK. avez-vous trouvé que le juge là-dedans était objectif? Parce que je reviens là au début, quand on sélectionnait les jurés, le juge avait eu des mots assez durs pour M. Weinstein. Il l'avait chicané pour l'utilisation de son téléphone. Il avait menacé de l'envoyer en dedans parce qu'il utilisait son téléphone dans la salle de cours. Pensez-vous que ça peut être un point d'appel?
Peut-être pas, mais le juge avait raison. Weinstein, avec son cellulaire, est accusé. Je suis sûr que les avocats lui avaient dit de faire attention de ne pas faire des choses comme ça. Nous, moi, quand je fais des procès de dangereux, j'en ai fait une tonne. Et je vais dire à mon client la façon de se croiser une jambe, la façon de réagir s'il y a quelque chose, mais jamais un téléphone dans les mains, puis tout ça. Alors lui, Weinstein, qui se pense au-dessus de la parade, le fait. Le juge l'a repris avec raison.
Parfait. Merci beaucoup, Maître Rancourt.
Plaisir.
Jean-Pierre Rancourt, avocat criminaliste québécois. 18h20 pour terminer l'émission. On va aller rejoindre Henri Arnault, notre correspondant à Hollywood, parce que c'est tout un tremblement de terre qui est survenu aujourd'hui. C'est survenu à New York, mais disons que les répliques, pour parler en séismologie, se sont rendues jusqu'à Los Angeles, parce que c'était aussi un des terrains de chasse de Harvey Weinstein, coupable à New York. Évidemment, beaucoup de réactions à Los Angeles. On en parle avec Henri. Salut Henri Arnault.
Salut Patrick, bonsoir à tous. C'est vrai que c'est une belle image, Patrick, de parler de tremblement de terre et de répliques en Californie, parce que depuis que l'annonce a été faite, il y a de plus en plus de personnes et surtout des actrices qui ont directement été en contact avec Harvey Weinstein, certaines qui ont subi les attaques d'Harvey Weinstein, qui ont pris la parole, comme par exemple Rosanna Arquette, qui a tout de suite demandé à ce qu'on félicite ces femmes qui ont parlé et qui ont accepté d'aller jusqu'au procès contre lui, mais surtout qui espèrent que maintenant on va pouvoir changer les lois pour que dans le futur il n'y ait plus le même problème avec des personnes qui puissent avoir ce genre de pratique pendant aussi longtemps. Je peux aussi parler, par exemple, de Rosanna McGowan, qui dit qu'elle espère qu'une chose, c'est qu'on va réussir, après cette journée, à changer les statistiques, que jusqu'à présent, il n'y a que 2% de femmes violées dans le monde qui arrivent à avoir un procès, à avoir au moins à mettre la personne devant des juges. Et elle espère qu'aujourd'hui, c'est un changement historique qui est en train de se passer. Alors, on peut aussi parler de Reese Witherspoon, d'Alyssa Milano. Il y a beaucoup de célébrités, Mira Sorvino, qui prennent la parole. Et je crois que cela n'est qu'un début, car on en a parlé ensemble, Patrick, on en parle depuis des mois. On avait l'impression qu'il y avait comme une chope de silence sur l'affaire Weinstein, que la plupart des studios d'Hollywood avaient demandé à leurs acteurs et actrices d'en parler le moins possible. Je dirais de ne pas mouiller la chemise dans cette affaire. Aujourd'hui qu'il y a eu une condamnation, je pense qu'on va avoir une nouvelle vague avec à nouveau des langues qui vont se délier.
Mais il faut dire là que bon, le Weinstein, Henri, a été trouvé coupable à New York, mais il y a plus de 100 femmes qui ont fait des sorties publiques et qui ont raconté des comportements là qui se situaient à peu près n'importe où sur le spectre des agressions sexuelles. Je veux dire, c'est... Et les dommages que cet homme-là a causés sont immenses.
Mais c'est ça qui va être intéressant, parce que j'en ai souvent parlé sur l'antenne. Pour moi, ce n'est que la partie visible d'un iceberg. Je pense qu'il y a beaucoup de choses encore qui vont sortir dans les prochains mois, voire les prochaines années. Ça va être intéressant, c'est de voir de quelle manière, en tout cas par rapport à ce que je connais bien, c'est-à-dire Hollywood, de quelle manière les mentalités vont évoluer dans le business. Depuis des mois, la moindre petite phrase, le moindre petit regard, on a beaucoup d'hommes qui hésitent de se retrouver dans ces situations après un petit peu le mouvement MeToo. Et d'un autre côté, on a beaucoup de femmes, y compris des célébrités comme Nicole Kidman, qui disait « Mais moi, ça me dérange pas qu'on me fasse un compliment, ça me dérange pas d'avoir un petit sourire en coin. » Donc je pense que on a toute une génération passée et actuelle qui va devoir retrouver ses marques dans les relations, et cela est particulièrement vrai pour le show business, parce qu'on a là évidemment beaucoup de célébrités et surtout beaucoup de gens puissants, et la plupart de ces gens puissants sont des hommes, comme on le sait.
Mais Henri, faut parler d'un autre élément du comportement de Weinstein, c'est-à-dire que oui, il a agressé, oui, il a profité de sa position de pouvoir pour contraindre des femmes à coucher avec lui, mais celles qui refusaient payaient un prix aussi. Je pense à l'actrice Ashley Judd. Ça a été confirmé par le réalisateur Peter Jackson. C'est-à-dire que quand elle a refusé de jouer le jeu de Harvey Weinstein, Weinstein a sali Madame Judd. Et Peter Jackson, là, celui qui a réalisé King Kong notamment, il a dit qu'il l'a retiré d'une liste de ses actrices potentielles parce que Weinstein la salissait.
Alors, ça, Patrick, c'est une question qui est très juste, et le plus gros problème pour les studios de cinéma, c'est comment changer ça. Comment est-ce qu'aujourd'hui, après ce qu'on vient d'apprendre, on va pouvoir changer cette approche? Parce que de vous à moi, ça existe toujours. Une actrice qui fait un petit peu trop de demandes est tout de suite considérée comme une peste, comme quelqu'un de difficile. On entend souvent des noms circuler à Hollywood quand je vais à des soirées où l'on dit « oulala, celle-là, je ne retravaillerai jamais avec elle ». Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est vraiment très difficile de tracer la frontière. Je sais, par exemple, pour avoir discuté avec Reese Witherspoon il n'y a pas très longtemps, elle a une nouvelle série qui va arriver, que si elle s'est lancée dans la production, et Nicole Kidman a fait la même chose, c'est principalement pour être, dès le départ, en charge d'un projet et pour ne pas avoir ce genre de critique si jamais elle fait une demande ou qu'elle dit qu'elle ne veut pas travailler telle semaine parce que son enfant est malade ou qu'elle voudrait avoir tel auteur, tel technicien parce qu'elle les apprécie. Jusqu'à présent, toutes ces demandes qui venaient de stars féminines avaient tendance à avoir une critique ou un petit rire en coin du genre « oui, oui, elle demande ça parce qu'elle peut se le permettre ». Je pense qu'aujourd'hui, toutes ces mentalités vont changer, qu'on est en train de tout remettre ça sur la table pour que quelque part, hommes et femmes soient traités de la même manière. Est-ce qu'on va y arriver rapidement? Mon sentiment, c'est qu'on n'y arrivera pas très vite, mais en tout cas, c'est déjà bien qu'on puisse en parler.
Est-ce qu'un autre Weinstein, très rapidement, en 20 secondes, est-ce qu'un autre Weinstein est possible à Hollywood?
Mais ça, c'est une évidence. Le problème, c'est que qui, où, quand, comment, Patrick? C'est un grand point d'interrogation. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de producteurs influents qui rasent les murs en ce moment, ça c'est certain.
Merci beaucoup, Henri.
Bonne soirée.
Henri Arnaud, notre correspondant à Hollywood, et vous dire que le 11 mars, Weinstein revient en cours pour sa sentence. Et le 11 mars, c'est quelle date? C'est la reprise du procès d'Éric Salvaille. Il est 18h27. Je vous laisse au bon soin de Mario Langlois. Bonne soirée.